Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Noëlla Lusitu Kabambi.
La 12e conférence des gouverneurs de province a ouvert ses portes ce mardi à Kolwezi dans le Lualaba, sous la direction du président de la République. Les travaux porteront sur la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. Dans ce journal, les attentes de la société civile du Lualaba de cette rencontre des gouverneurs de province. Des affrontements hier lundi dans le territoire de Rutshuru ont fait un mort et des maisons d'habitation incendiées. La victime est une petite fille d'environ 10 ans. Ces combats entre le M23 et le Wazalendo a aussi entraîné un déplacement des populations. Sylvain Kakule Lumbulumbu, chef de bureau de l'état civil à Beni, est notre invité. Vers la fin de ce journal, il va évoquer la problématique de l'inexistence des registres d'enregistrement des enfants à l'état civil dans la ville et le territoire de Beni au Nord Kivu. Bonjour à tous. Début ce mardi de la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi dans le Lualaba. C'est le président de la République qui en a donné le go. Les travaux porteront sur la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. Par rapport à ce thème, la société civile du Lualaba pense que les recommandations qui découleront de ces assises permettront l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales, notamment qui souvent n'ont pas accès facile aux soins de santé de qualité. On écoute Shadrach Moukad, président du cadre de concertation de la société civile du Lualaba. Il est joint par Jean Gandou.
Connaissant les réalités de notre province, nous sommes la province la plus riche. Il y a vraiment un contraste par rapport aux conditions de vie de nos communautés qui sont dans des villages. Nos communautés rurales vivent dans des conditions sanitaires très précaires. Je vais parler de maladies qui sévissent dans les coins les plus reculés de la province et nous espérons qu'avec cette conférence et les recommandations, tout comme le plan qui sera mis en place, le gouvernement provincial va étendre la mise en œuvre de cette politique qui pourra permettre que nos communautés vivant dans les milieux les plus reculés, c'est notamment les territoires, les chefferies, les groupements, les villages puissent bénéficier de la couverture de la santé universelle. Cette couverture pourra permettre l'amélioration des conditions de vie sanitaires de nos communautés en appuyant les structures sanitaires, les centres de santé, les hôpitaux de référence qui sont sous l'autorité des différentes zones de santé installées dans notre province.
Sensibilisation à Kolwezi toujours, des ressortissants de la province du Maniema vivant dans le Lualaba sur le projet dénommé Tujenge Maniema, entendez, bâtissons le Maniema. À l'initiative du gouverneur du Maniema, cette sensibilisation a été menée le dimanche par les autorités de province en séjour à Kolwezi. En quoi consiste ce projet Tujenge Maniema? Réponse dans ce reportage de Paul Amunanga.
Le projet Tujenge Maniema Entende, construisons le Maniema, est conçu pour encourager la contribution de chaque citoyen du Maniema afin de faire prospérer cette province. Le professeur Casimir Ngoumi Kitete est le président du conseil d'administration de ce projet.
Nous voulons éveiller la conscience de tous les ressortissants du Maniema, où qu'ils se trouvent, que notre province est suffisamment enclavée. Nous voulons la désenclaver, en commençant par le mental. Nous voulons être un seul homme, nous voulons être ensemble pour la reconstruction de notre province, sans division aucune. Susciter, éveiller les ressortissants du Maniema, nos oncles, nos voisins, nos amis, afin qu'ils puissent comprendre que l'air a sonné pour la reconstruction de notre province, à travers la structure Tujenge Maniema.
Quelques participants expriment leur avis au sujet du projet Tujenge Maniema.
Tujenge Maniema, c'est un projet de construction. C'est comme les 5 chantiers qu'on avait définis à l'époque.
Le projet de Tujenge Maniema, c'est un bon projet qui donne quand même de l'avenir dans les générations à venir. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Avec le projet Tujenge Maniema, on pourrait quand même commencer à relancer certains projets pour pouvoir désenclaver la province.
Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
À Kinshasa, parlons de ces chiffres du ministère des Finances. Au premier trimestre de l'année, les dépenses exécutées en procédure d'urgence hors secteur sécuritaire n'ont représenté que 1,58%. Ce résultat marque un progrès notable, fruit des réformes engagées en 2024 pour encadrer strictement les dépenses publiques, renforcer la transparence budgétaire et restaurer la discipline financière, indique le ministère des Finances. Explication avec vous, Blaise Ndonga Lamayanda.
Selon une dépêche publiée sur le compte UX du ministère des Finances, la RDC franchit une étape importante dans la gestion de ses finances publiques. Cette note rapporte qu'au premier trimestre de cette année, les dépenses exécutées en procédure d'urgence hors secteur sécuritaire se limitent à seulement 1,58%. D'après les données du ministère des Finances, ces taux historiquement bas reflète l'impact concret de la réforme lancée en juin 2024 par le ministre Doudou Fouamba-Likoundé. Désormais, précise ces documents, la procédure d'urgence est rigoureusement limitée aux seules opérations sécuritaires et au placement des chefs d'institution. Toutes les autres dépenses, notamment celles liées à la dette intérieure, au fonctionnement ou aux investissements publics, doivent impérativement suivre les circuits classiques de la chaîne des dépenses. Cette discipline accrue s'inscrit dans une volonté affirmée de restaurer la confiance dans la gestion des finances publiques et de consolider la stabilité macroéconomique du pays, conclut le ministère des Finances.
La coalition Notre Terre sans pétrole, NTSP, a tenu un point de presse hier à Kinshasa pour renouveler son refus de la mise en route du projet d'exploration et d'attribution de 52 blocs pétroliers dans la cuvette centrale de la RDC. Selon Serge Ngimbi, coordonnateur de l'initiative pour le développement local Idel Boma, la mauvaise gouvernance qui caractérise le secteur est l'un des indicateurs qui justifie le rejet de ce projet par ce réseau regroupant plus de 150 organisations de la société civile environnementale. Serge Ngimbi est au micro de Tati Mapoukou.
Et après avoir examiné la gouvernance dans le secteur des hydrocarbures en RDC, on a compris que le pays, je ne peux pas dire n'est pas encore en mesure, mais le pays peut laisser les hydrocarbures sous la terre. Et nous allons continuer à vivre. De la manière dont le Créateur a créé le Congo, il a tout mis ici, mais pas pour tout consommer. On se retrouve dans la cuvette centrale, on est dans le bassin du Congo. Dans la plus grande espace, c'est la RDC. Et dans ce bassin-là, il y a 52% de forêt, il y a 62% d'eau. Vous voyez, les tourbières en grande quantité, c'est ici. La majeure, on se retrouve maintenant dans une situation où, quand on regarde à la gestion, dans la gouvernance, ce que la forêt apporte en RDC et ce que le pétrole apporte en RDC, le choix est clair. Okay? On doit adopter ce que l'environnement apporte et ce que le pétrole apporte. Parce que par rapport aux chiffres, vous avez suivi, je ne sais pas si je vais vous informer, on est maintenant on est au niveau de la Vena 9 avec la Perencorette, où le pays n'a gagné que 40 millions de dollars sur 20 ans. Mais ce que la forêt peut apporter, c'est des centaines de millions de dollars.
Au Nord Kivu, plusieurs maisons d'habitation incendiées à Moulema, une petite fille d'environ 10 ans tuée à Nyamilima et des populations déplacées dans le village Mugogo. Bilan des affrontements hier lundi dans ces villages, respectivement du groupement Kisimba, territoire des Walikale, Bambo et Binza, territoire de Rutshuru. Si un calme précaire règne dans ces villages ce mardi, la situation sécuritaire y demeure encore tendue, disent nos sources locales. Le point avec Stani Dumi.
Dans le village de Nyamilima, territoire de Rutshuru, ce sont les Wazalendo qui ont attaqué autour de 7h locale. Hier lundi, les rebelles du M23, les violents affrontements qui s'en sont suivis jusqu'autour de midi ont causé de nombreux dégâts matériels et humains. Une fillette d'environ 10 ans a été tuée, une dizaine de maisons d'habitation frappées par des éclats de bombes et quelques dizaines d'autres personnes interpellées par le rebelle AFC M23. C'était peu après le repli des Wazalendo, indiquent nos sources à Nyamilima. D'autres accrochages opposant toujours les Wazalendo aux rebelles M23 ont été signalés à Mugogo, dans la chefferie des Buito, territoire de Rutshuru. Ils se sont même étendus jusqu'à Moulema, dans le groupement voisin de Kisimba, territoire de Walikale, où plusieurs maisons appartenant à des civils ont été incendiées, disent nos sources. Si une accalmie s'observe ce mardi, nos sources précisent que la situation est tendue, en particulier dans cette partie ouest du territoire de Rutshuru. Là, du 18 mai dernier à ce jour, nos sources font état de plus de 600 maisons de civils incendiées, d'au moins 75 personnes tuées et de 42 autres grièvement blessées. C'est là au cours des affrontements qui ont affecté plus de 26 villages de groupements Bukombo, Tongo et Bambou.
Et puis 189 armes ont été soit remises, soit abandonnées par des détenteurs illégaux à plusieurs endroits du quartier Ndendere, dans la commune d'Ibanda, ville de Bukavu au sud Kivu. Le chef de quartier affirme que c'est le résultat d'une campagne de sensibilisation menée par lui-même depuis le 15 février en collaboration avec les chefs des avenues de sa juridiction. Albert Migabo Nyagaza est au micro de Radio Okapi.
Ce n'est pas vraiment dans un jour, mais c'est un processus. C'est-à-dire quand on avait lancé cette sensibilisation, certaines armes étaient amenées dans les mains des chefs d'avenu, soit déposées en dessous des conteneurs, là où il y avait les postes de la police dans les quartiers d'Endere, au niveau de la voie Mungu, au niveau de les dates chez Bilala, au niveau même de la 33e région militaire, TEP, au niveau même de la prison centrale. Le matin, on rencontre une arme, quelqu'un qui voit cette arme-là, il appelle un chef d'avenir, et le chef d'avenir qui dépose au niveau de la 33e région militaire, soit au niveau du Kansayo, soit au niveau des TEP. Le cadre de base, un Yumbakoumi, un chef d'avenir, si on n'a pas amené l'arme dans ses mains, alors lui, quand il y arrive, il appelle maintenant un service sécuritaire qui vient prendre cette arme-là.
En rapport toujours avec la situation dans l'est de la RDC, la déclaration de principe signée entre la RDC et le Rwanda sous les bons offices de Washington a fait l'objet d'une conférence débat hier lundi à Kinshasa, organisée par le mouvement non aligné de la RDC. La conférence a réuni les étudiants, les scientifiques, les forces politiques et sociales, ainsi que les professeurs des universités pour débattre autour d'une question cruciale qui touche directement à la souveraineté de la RDC. Objectif, comprendre la portée réelle de la déclaration des principes, le prélude à un éventuel futur accord entre la RDC et le Rwanda. Le porte-parole du mouvement non aligné de la RDC, Cédric Ndombé, fait le point au micro de Bertin Kassiama.
Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant au Congo. Nous ne sommes pas contre un certain deal ou encore contre les investissements en République démocratique du Congo. Mais cela doit respecter les droits congolais et l'intérêt général. Nous avons appelé, tout en saluant l'initiative de Washington, ainsi que d'autres efforts qui sont faits pour la médiation au Congo. Nous avons rappelé sur l'importance de coordonner toutes ces médiations autour de l'Union africaine et l'implication accrue des évêques catholiques et des pasteurs protestants pour approfondir ce dialogue en gestation, ainsi qu'une maîtrise du dynamisme sociopolitique du pays. Voilà en grosso modo l'économie des non-alignés telle que rendue publique aujourd'hui au travers de cette conférence de bas.
Toujours à Kinshasa, en plus bref, la police nationale congolaise, PNC, a arrêté hier lundi 3 braqueurs qui ont tué le conducteur d'un ressortissant chinois la semaine dernière près de la foire internationale de Kinshasa-Fikine dans la commune de Lemba. Annonce faite ce mardi par le ministère de l'Intérieur et Sécurité dans un communiqué. Selon le document, cette arrestation est le fruit de l'intensification de l'opération Ndobo, notamment dans son volet consacré à la lutte contre les braquages. Ces criminels seront transférés dans un bref délai devant les instances judiciaires compétentes, renseigne le communiqué. Pour rappel, depuis quelques semaines, des individus armés s'attaquent de manière délibérée à des commerces, des services ou encore des véhicules des entreprises dans le but d'extorquer des fonds et des biens. À ce sujet, lors de la récente réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit les ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice de mettre sur pied des stratégies pour arrêter ces crimes qui tendent à s'accroître dans la ville-province de Kinshasa. Les femmes dans la société et dans l'église à Kinshasa, 36 ans après Malula, savoir d'hier, pratique d'aujourd'hui et regard de demain. C'est le thème d'un colloque international ouvert hier à Kinshasa, organisé par le groupe des théologies africaines et afrodescendantes de l'Université de Montréal du Canada, en collaboration notamment avec l'Université Eugène des Masnotes de Kinshasa. Ces assises de 6 jours visent à faire le point sur la postérité de la pensée et des pratiques pastorales du cardinal Joseph Albert Malula. Selon le professeur Maker Manimba, père recteur de l'Université Eugène des Masnotes, ce colloque se focalise sur les rôles et les fonctions des femmes dans la société. On l'écoute au micro de Grace Amzati.
Ce thème est évocateur parce que les femmes sont souvent reléguées au second rang, alors qu'elles ont un grand rôle à jouer pour l'avenir de l'Église et de la société. Nous avons pensé relire la pensée du cardinal Malula, essayer de voir toutes ses intuitions pastorales et à partir de là, voir dans quelle mesure cette pensée, ces intuitions pastorales peuvent aider les Congolais Congo aujourd'hui, que ce soit au niveau ecclésial ou au niveau social, à préparer l'avenir de ce pays. Parce qu'il ne faut pas oublier, Malula n'a pas été qu'archevêque. Malula a été un homme qui a défendu les valeurs africaines, les valeurs congolaises, parce qu'il disait lui-même, nous avons besoin d'une église congolaise dans un état congolais. Nous retrouvons dans Malula, ou dans sa pensée, une espèce de démarche décoloniale, parce que nous devons repartir de nous-mêmes, africains, pour essayer de tracer des voies vers l'avenir. Pour bâtir cet avenir, la femme a un rôle important à jouer.
Actualité internationale.
L'ONG Médecins Sans Frontières MSF annonce ce mardi la fermeture pour des raisons de sécurité d'un hôpital du nord-est du Soudan du Sud après qu'une violente attaque l'a détruit en avril. L'infrastructure de l'hôpital dans laquelle MSF avait investi des millions d'euros a été entièrement détruite, a regretté l'ONG ce mardi dans un communiqué. Quelques 135 000 euros de médicaments ont été aussi volés, soit suffisamment pour faire fonctionner l'hôpital pendant des mois et soigner des milliers de patients. En mai dernier, MSF avait déjà annoncé la suspension des activités d'un autre de ses hôpitaux à Old Fangak, dans le nord, après son bombardement. La fermeture de ces deux structures sanitaires laisse une zone de plus de 200 km de la frontière éthiopienne à Malakal, capitale du Haut-Nil, sans aucun établissement de santé secondaire où sont fournis des soins spécialisés.
L'invité.
Depuis 3 ans, les registres d'enregistrement des enfants sont inexistants dans la ville de Beni et le territoire de Beni au Nord Kivu. Une situation alarmante qui prive des milliers d'enfants de leur identité légale avec des conséquences majeures sur leur accès à l'éducation, aux soins et à la protection. Qu'est-ce qui explique cette carence? Quelles solutions sont envisagées? Sylvain Kakule Lumbulumbu, chef de bureau de l'état civil à Beni, répond à toutes ces questions dans cet entretien avec Martial Papimukeba. Suivez.
Sylvain Lumbulumbu, bonjour. Cela fait maintenant 3 ans que les registres d'enregistrement des enfants font défaut à Beni. Quelle est la principale cause de cette carence persistante selon vous?
La principale cause, c'est le ministère des tutelles ne nous fournit pas assez de registres. Il y a retard dans la transmission des registres au niveau du ministère des tutelles.
Quelles sont les conséquences concrètes de cette absence des registres sur la vie des enfants non enregistrés, notamment en matière d'accès à l'école, aux soins ou à la protection juridique?
D'abord, la première conséquence, c'est d'exposer les enfants à la patrie. Et vous savez très bien qu'à partir de l'acte de naissance, on a déjà la présomption de dire que tel ou tel autre est congolais. Et en étant congolais, vous savez très bien, et cela donne certains avantages. D'abord les avantages politiques, mais aussi sociaux. Avantages sociaux par rapport à la succession, cela donne droit à l'enfant d'être parmi les héritiers. Question des nationalités, la gratuité à l'école. Et c'est pour cela que nous avons même suggéré à certains de nos députés. Parce que c'est un avantage donné aux petits Congolais et nous avons suggéré à nos députés de proposer une loi pour encadrer, n'est-ce pas, cette gratuité. Je vais dire par là, par exemple, que tout enfant non déclaré ne peut pas bénéficier de la gratuité de l'école.
Aujourd'hui, environ combien d'enfants dans la région de Beni sont privés de cet enregistrement?
Il y a peu, nous avons fait une descente sur terrain parce que je suis point focal. Vu le territoire de Beni, le constat était très malheureux parce que tous les bureaux n'ont pas de registres. Vous comprenez ce que ça peut produire comme conséquence? C'est-à-dire les activités sont à Berne. La plus grande activité au niveau des bureaux d'état civil partout, c'est l'enregistrement des enfants. C'est le mouvement de la population qui doit tout contrôler. Parce que nous avons créé un régime social que nous avons appelé régime de procuration. Aujourd'hui, je vous dis, rien qu'à ville de Beni, je compte plus de 50 000 enfants dans ces régimes-là de procuration. Et le registre lui-même, il a combien de pages? 535 pages avec 4 feuillets. Vous allez trouver que ça nous demande presque 101 registres pour élaguer tous ces arriérés des procurations qui traînent dans nos bureaux ici.
Donc on peut dire, en des termes plus simples, qu'environ 50 000 enfants ne sont pas registrés.
Ne sont pas registrés et nous avons des procurations ici.
Alors face à cette situation préoccupante, quelles mesures ont été prises ou sont envisagées par votre bureau pour relancer l'enregistrement des naissances dans la ville et les territoires de Beni?
Vous allez comprendre qu'on ne peut pas rester bras croisés comme ça. Nous sommes des Congolais, nous devons protéger nos enfants, exposés à la patrie, je vous l'ai dit. Tout ce que nous faisons, c'est de prendre contact contact avec le PTF maintenant, les partenaires techniques et financiers. Et ce sont ces PTF-là qui nous viennent en aide. Présentement, si nous sommes dans une campagne de rattrapage, c'est tout simplement parce que nous avons été appuyés par l'ID financé par Ahmad. Vous comprenez? Et donc, on ne doit pas laisser la situation pourrir comme ça. Nous devons nous mouvoir et faire quelque chose quand même pour nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans les rattrapages, mais cela ne suffit pas. Parce qu'il y a des arriérés. Je vous ai parlé des procurations, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une maman qui se présente à taille utile dans le délai légal, qui a fait un enfant. Vous savez, c'est 90 jours. La maman se présente avant que le délai légal expire. Mais on ne va pas lui demander de rentrer comme ça. On risque de décourager, de cracher d'ailleurs sur tous les efforts que nous avons fournis pour amener les gens, n'est-ce pas, à considérer que déclarer un enfant, c'est capital, ça a vraiment une importance. Et à une dame comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend une procuration et lorsque nous avons des registres, on enregistre l'enfant à la date où la maman s'était présentée au bureau pour dire que l'enfant se trouve dans le délai légal. Mais en faisant ça, où sont les registres maintenant? Nous n'avons pas de registres.
Un appel ou un message particulier adressé aux autorités compétentes ou aux partenaires techniques et financiers pour appuyer la relance de ces services essentiels?
Nous lançons un cri. Demandons à ce qu'ils essaient de voir la possibilité, n'est-ce pas, de nous donner des fournitures de bureaux, entre autres les registres, pour que les activités ne soient pas à Berne, telles que nous sommes en train de passer la période d'aujourd'hui. Et donc nous avons besoin des registres, non seulement en ville de Béni, mais aussi dans les territoires de Béni. Le besoin est énorme. Et donc nous avons besoin de l'appui et du gouvernement et de PTF.
Sylvain Lumbulumbu, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Ce journal a été mis en onde par Alain Goy. À la présentation, c'était Noëlla Luzitu Kabambi, le tout dans une coordination de Élisée Tchikota Tchivueta. Merci à vous tous de nous avoir suivis.